Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
On les appelait aussi les escarpes, les surineurs ou les chourineurs. On les croisait du côté de Bastide, Sébastopol et dans les bals populaires. S'ils sévissaient à Paris, ils en fait trembler la France entière. Et trois quarts de siècle avant Starmania, les gens changeaient déjà de trottoir quand ils arrivaient en ville. Je vous raconte maintenant les Apaches de Paris. Personne ne se souvient de son véritable nom, mais tout le monde a en tête celui qu'on donnait à Amélie Lee lorsqu'on la sifflait dans les cabarets de Belleville au tournant du siècle passé, Casque d'or. Un surnom que la jeune femme devait à ses cheveux blonds et que Simone Signoret a immortalisé au cinéma devant la caméra de Jacques Becker en 1952. Mais Casque d'or n'a pas attendu le grand écran pour être célèbre. En 1900 déjà, tout Paris la connaît. Casque d'or, c'est la reine de l'Ange Gabriel, un cabaret du Vieux Paris. C'est aussi la muse d'un truand de Charonne, Joseph Plaigneur dit mandat. Mais la belle gigolette le quitte pour un autre chef de bande, un Corse, Dominique Leca. Entre les deux caïds, la guerre est ouverte. Chacun rend coup pour coup. En janvier 1902, mandat et sa bande poignardent Leca dans un fiacre. La presse embraye. Casque d'or, elle, livre sa version de l'affaire en feuilleton grâce à la plume du journaliste Henri Frémont. Certains plongent avec délice dans un récit romanesque en diable. D'autres, parfois les mêmes, se hérissent. Dans le petit journal, on peut lire.
Ce sont là des mœurs d'apaches du Far West. Pendant une demi-heure, en plein Paris, en plein après-midi, deux bandes rivales se sont battues pour une fille des fortifs, une blonde coiffée à la chien.
Dans le matin, on ajoute.
Nous avons l'avantage de posséder à Paris une tribu d'apaches dont les hauteurs de Ménilmontant sont les montagnes rocheuses. Ce sont des jeunes hommes pâles qui vous tuent leur homme comme les plus authentiques sauvages, à ceci près que leurs victimes ne sont pas des envahisseurs, mais leurs concitoyens français.
Apache. Le mot est lancé et sa note exotique et sauvage fait un tabac. Petit à petit, article après article, reportage après reportage, le tableau se précise, servi par la puissance immense d'une presse qui n'a jamais vendu autant de journaux qu'à la Belle Époque. Portrait physique d'abord. L'apache, c'est d'abord un style. Les chaussures vernies, le foulard rouge ou jaune au ras du cou, une ceinture de flanelle autour des reins, une casquette qu'on porte bas, les cheveux ras sur la nuque et lustrés en accroche-cœur sur le front. La touche finale, c'est sous la taille qu'on la trouve avec les premières pattes d'ef signées du couturier Bénard, un nom qui devient vite synonyme de pantalon en argot. Il y a quelque chose du dandy chez le jeune apache et chaque bande a son style. Des loups de la butte aux cravates vertes en passant par les gars de Charonne ou par ceux de Bastille ou des fortifs. La presse s'étouffe, évidemment. C'est une élégance malsaine que cette élégance de la canaille, dont l'immoralité se lie aussi dans les tatouages. Mort aux vaches, marche ou crève, ou vive l'anarchie. Et puis évidemment, il y a cet outil qui fait frémir, le surin, le ya, le schlass, la sacagne ou le stache, bref, le poignard. Cette lame que tout bon apache meurt d'envie de planter dans un gardien de la paix, ou plutôt d'un cogne. Parce que c'est aussi ça, vivre en apache. Manier la langue verte, l'argot des faubourgs, le louchébème, le verlan ou le javanais. Portrait moral ensuite. Très vite, sous la plume des reporters, l'apache devient davantage qu'un marginal, un criminel né. L'apache, c'est le mauvais garçon des temps modernes, la mauvaise herbe qui a poussé dans la haine de l'ordre bourgeois, le rebelle qui refuse l'école, le patron, l'usine, le service militaire, l'ordre et la loi. C'est l'anarchiste par excellence, jeune, immature et désœuvré, crapuleux, paillard et débauché. Sa famille, c'est la foule qui se presse dans les cabarets, les guinguettes et les lupanards. Sa compagne, une catin des remparts, que chacun peut s'offrir pour quelques sous, des sous qu'elle rendra à son homme. Son terrain de jeu, c'est la rue. Ses bas-fonds qu'il ne quitte que pour s'effondrer sur le mauvais matelas d'un bouche crasseux, assommé par l'alcool. L'apache, c'est l'ennemi du bon père de famille. À partir de 1905, l'inquiétude vire à la panique. Une panique que la presse attise à grand renfort de gros titres et de couvertures sanglantes. Dans le Petit Journal, le Gaulois ou le Figaro, on lit chaque matin le compte-rendu, souvent romancé, des agressions de la nuit. Avec une conclusion claire.
Il faut épurer Paris. Comment ?
S'interroge le matin en 1906. Pour nettoyer la ville, chacun rivalise d'inventivité. Au ministère de l'Intérieur, Georges Clémenceau, qui se désigne lui-même comme le premier flic de France, crée les brigades du Tigre. mais rien ne satisfait les plus inquiets. En 1910, le docteur Lejeune propose de rétablir un vieux châtiment expédié aux oubliettes par la Révolution, le fouet. Dans un ouvrage baptisé « Faut-il fouetter les Apaches ?», le bon docteur répond par une défense en bonne et due forme de la flagellation publique.
Dévêtu, l'Apache expose son anatomie de malingre et de dégénéré. Il se montre tel qu'il est, un être inférieur que seule notre excessive humanité tolère au sein des grandes villes. Le flagellé redevient un esclave, un vaincu, et rien n'est mieux que d'imprimer cette sensation sur sa peau.
Dans le matin, on renchérit.
Le seul moyen de nous en désencombrer est de les rosser copieusement et de les renvoyer assagis à l'établi.
D'autres vont plus loin. Alors que le bruit court que la République s'apprête à supprimer la guillotine, l'Apache arrive à point nommé pour chauffer l'opinion publique à blanc. Certains criminels répondent avec une ironie noire en se tatouant par exemple autour du cou la phrase suivante « à découper suivant le pointillé ». Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire des villes, la délinquance urbaine a toujours existé et des œuvres en témoignaient déjà au XIXe siècle comme « Les mystères de Paris » de Gensu ou « L'assommoir » d'Émile Zola. Pourquoi la figure de l'Apache connaît-elle un tel succès au tournant du XXe siècle? Sans doute parce que la belle époque ne l'est pas pour tout le monde. La France des années 1900 est une France coupée en deux, l'une aisée, l'autre misérable. Celle-là, c'est celle des laissés pour compte, qui peinent pour gagner 3 sous, relégués dans ces faubourgs qu'on n'appelait pas encore les banlieues. C'est la France des marges, celle où la colère ne cesse jamais tout à fait de gronder. Et les Apaches en sont les enfants. Des enfants pas si nombreux d'ailleurs. À lire la presse, Paris n'est plus qu'un coupe-gorge, où chaque porte cochère abrite un égorgeur. La réalité statistique est plus nuancée. Oui, la délinquance progresse au tout début du XXe siècle, avant de stagner après 1905. Mais on peut tout ranger derrière la figure de l'Apache, du viol au graffiti, de la bagarre d'auberge à l'assassinat, du crime familial à l'arnaque au bonneteau. L'Apache symbolise le crime sous toutes ses formes et il incarne surtout une jeunesse perdue que certains contemplent avec horreur et que d'autres lorgnent avec une sorte de fascination, la même qu'on a pour les pirates ou les bandits de grand chemin. Si on prête beaucoup aux Apaches, les archives montrent, elles, une autre réalité. La plupart des jeunes gens qui finissent au bagne, en maison de redressement ou en bataillon disciplinaire, viennent de petites bandes de quartiers sans envergure. Ces camaraderies délinquantes sont loin de former un milieu ou une mafia à part entière, organisée et implacable. La mauvaise herbe des années 1900 n'aura de toute façon guère le temps de grandir, puisque bien des Apaches ne rentreront jamais des tranchées, fauchées comme tant d'autres par la Grande Guerre. Bien plus tard, quand une nouvelle jeunesse délinquante apparaîtra, c'est sous d'autres noms qu'elle fera à son tour la une d'une presse effrayée par les héritiers lointains des Apaches de la Belle Époque, les loubards ou les blousons noirs. Mais ça, c'est une autre histoire.